Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
Bonjour à tous et bon dimanche. Un marché presque d'épices, j'ai envie de dire aujourd'hui. Oui, vous allez vous dire, Ferniaud, il se balade tout le temps. C'est vrai que j'ai un peu des ailes sous les semelles parce que se tenait la semaine dernière un événement d'importance de l'autre côté de la Méditerranée, à Tanger, au Maroc. C'était la réunion annuelle des disciples d'Escoffier. Alors, les disciples d'Escoffier, du nom du grand chef français qui a révolutionné au début du XXe siècle la cuisine et la restauration, eh bien ces disciples d'Escoffier, c'était une belle réunion de chefs et évidemment pour tenir le haut du pavé, il faut avoir les hôtes de qualité. Ça tombe bien, Guillaume Gomez était avec nous, l'ambassadeur français de la cuisine nommé par le président de la République qui venait un peu porter de notre culture à table. Je vous laisse l'écouter.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché.
Guillaume Gomez, on vit des journées extraordinaires ici à la réunion des disciples d'Escoffier Maroc. C'est l'hospitalité à marocaine.
Oui, bonjour cher Vincent. En effet, on est reçu ici au Maroc, un festival organisé autour de la gastronomie marocaine, de la gastronomie française, un pont entre nos pays et on est reçu à la marocaine avec toute la convivialité qui va avec.
Alors c'est un événement qui est parrainé par le roi du Maroc. D'ailleurs, ils en sont extrêmement fiers, nos amis marocains. C'est une chose assez rare. Vous êtes en quelque sorte parrainé par la République au travers du président de la République qui vous a nommé cette ambassade de la gastronomie à travers le monde. Et je vois sur les réseaux sociaux les réactions de gens qui disent « Mais Guillaume Gomez, il est partout. » Ça fait partie de votre rôle d'être partout ?
J'essaye de répondre présent autant que faire se peut. Je suis ici, donc je ne suis pas ailleurs. Mais c'est vrai que cette gastronomie française, elle doit rayonner. Mon rôle de diplomate de la gastronomie fait que je dois être à l'étranger lorsque des événements comme celui-ci ont lieu. En effet, il est porté par Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est un événement important pour les Marocains, mais c'est un événement important pour la France également. Le roi accorde son haut patronage, ce qu'il fait assez rarement, à une manifestation sur la gastronomie où des chefs français participent. Donc c'est bien sûr une fierté pour tous les Marocains, mais ça doit être une fierté aussi pour les Français, que la gastronomie française soit reconnue comme une gastronomie d'ouverture qui peut amener des choses, qui se veut porteuse de valeurs, et je pense que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Donc c'est un événement important, c'était important que je sois là auprès de nos amis marocains et de nos chefs français.
Alors ici, tout le monde porte ce baudrier rouge des disciples d'Escoffier. Pas de différence entre les Français et les Marocains, tous chefs, tous camarades, et avec, je dirais, le même souci de bien faire, de faire bien son métier.
Oui, quand vous portez cette écharpe rouge des disciples d'Auguste Escoffier, vous êtes détenteur des valeurs d'Auguste Escoffier. Ces valeurs, elles sont universelles. C'est ce qu'a voulu Escoffier dans toute sa modernité, il y a plus de 100 ans, en créant ces dîners d'Épicure, en créant cette manifestation qui porte des valeurs universelles. La transmission des savoir-faire, le partage, le fait qu'on passe un repas ensemble. Vous savez, au club de chef des chefs qu'a fondé Gilles Bragard il y a près de 40 ans, notre maxime est si la politique divise les hommes, la bonne table les réunit. Et c'est exactement ce qu'a voulu Escoffier, qui aurait eu 175 ans avant-hier, en disant « à table, on va pouvoir se parler partout dans le monde ». Et c'est un événement qui en plus intervient post-Covid, où les gens avaient envie de se réunir, avaient envie de se revoir. Et c'est un franc succès, puisque dans plus de 45 pays, près de 8000 personnes participent à ces dîners d'Épicure, donc où la gastronomie française rayonne, mais à travers cette gastronomie, une fois de plus, les valeurs. Le partage, les produits, la transmission des savoir-faire, liberté, égalité, fraternité, ce ne sont pas que des mots, ce sont des messages à porter qui sont des messages universels.
Et puis une certaine idée de la cuisine, c'est-à-dire bien sûr toujours la création, la volonté de mieux faire, etc. Mais aussi la culture culinaire, la tradition, ça, être attaché à des valeurs.
Oui, ces dîners sont le moment, c'est ce qu'a reconnu l'UNESCO en classant le repas gastronomique des Français. C'est la différence entre s'alimenter et manger. On est, en tout cas, nous Français, très fiers de passer à table, de préparer notre repas, de faire nos courses, de sourcer nos produits, de réfléchir à l'ambiance, aux arts de la table. C'est pas juste se nourrir pour se restaurer. C'est réfléchir à son repas, réfléchir à la personne, à nos commensaux, la personne qui va partager ce repas avec nous, prendre soin de lui, prendre soin de soi, et aujourd'hui prendre soin de l'environnement. C'est quelque chose d'important et je pense que toutes ces valeurs que la gastronomie française doit porter à l'international, ce sont des valeurs que chaque pays peut s'approprier et c'est ce qui fait la reconnaissance de cette gastronomie française. La gastronomie française à l'étranger, elle se veut pas hégémonique, elle se veut ouverte, elle se veut partageuse et elle se veut surtout elle se veut gourmande, bien évidemment, mais avant tout tournée vers ses valeurs. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui fait que les chefs à l'international reconnaissent que les chefs français sont des exemples pour eux. À nous d'en être, bien sûr, responsables.
Un dernier mot, ici, ça prend un tour particulier parce que, évidemment, la gastronomie est partout. Les escoffiers, vous le disiez, sont une assemblée internationale. Au Maroc, il y a un accent mis très fort sur la transmission et l'apprentissage vers les jeunes. On a vécu ensemble ce concours des jeunes talents escoffiers. C'est brillant parce que ça donne envie à des jeunes de poursuivre dans la vie.
Oui, il faut que ces chefs escoffiers soient des exemples pour cette jeunesse, leur montrer que non seulement c'est un ascenseur social qui fonctionne, que vous pouvez devenir quelqu'un. Aujourd'hui, les chefs sont reconnus, sont adoubés par le roi du Maroc. Vous vous rendez compte, quand vous êtes un citoyen marocain, le fait qu'une manifestation soit placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est quelque chose d'important. Si vous êtes écrivain, acteur, homme politique, vous n'avez pas cette reconnaissance aujourd'hui au Maroc. Ce sont les cuisiniers, les maîtres d'hôtel, les gens du métier du tourisme qui sont reconnus par Sa Majesté le roi comme étant des acteurs importants de leur pays. Donc pour toute cette jeunesse, il est temps, c'est le moment de leur dire, écoutez, vous êtes l'avenir de ce pays. Le roi reconnaît en apportant son patronage que vous êtes l'avenir de ce pays, que vous décidiez de rester au Maroc ou que vous soyez les ambassadeurs du Maroc à l'international. Donc c'est bien sûr très motivant, je pense, pour ces jeunes. C'était très émouvant d'être déjà à la rencontre de ces chefs marocains qui sont pour eux des exemples. Mais il faut comprendre maintenant que les métiers du tourisme ne sont plus des métiers que vous subissez, ne sont plus des filières que vous devez faire parce qu'il faut se nourrir, comme on l'a connu dans le monde entier, mais qu'aujourd'hui vous pouvez devenir quelqu'un grâce à votre travail et que la valeur travail est une valeur importante aujourd'hui au Maroc qui est reconnue et que par la capacité que vous aurez à vous passionner par vos métiers, vous serez toujours reconnu comme tel.
Alors vous avez accepté la présidence de ces chapitres internationaux, donc on vous verra dans plein de pays avec les escoffiers.
Alors beaucoup se sont déjà passés, mais je soutiendrai bien évidemment, parce que les valeurs d'Auguste Escoffier sont les valeurs qui m'ont mené là où j'en suis aujourd'hui. Rien ne me prédestinait à terminer ambassadeur de France. J'ai été pendant près de 25 ans au Palais de l'Élysée. Je suis le meilleur ouvrier de France, l'un des meilleurs ouvriers de France. On est 7 meilleurs ouvriers de France sur cette manifestation aujourd'hui. Donc je soutiens bien sûr les disciples d'Auguste Escoffier. Je remercie son président international Nicolas Salle de m'avoir fait cet honneur et de m'avoir accordé cette confiance. Et bien sûr, pour les valeurs que portent les disciples d'Auguste Escoffier, ils pourront, aujourd'hui comme demain, toujours compter sur moi.
Merci Guillaume.
Merci Vincent.
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Ah les amis, oui, Guillaume Gomez, il est habitué au président. Alors justement, ça tombe bien parce que le président des Escoffiers au Maroc était juste à côté de moi.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors je suis avec Lassen Hafid qui est le président des disciples d'Escoffier ici au Maroc et le second à l'hôtel Ritz à Paris, donc le pont entre le Maroc et la France. Lassen, vous venez de descendre de Seine où vous avez intronisé des nouveaux disciples d'Escoffier. Combien ce soir, vous savez ?
Bonsoir Vincent, tout d'abord merci pour cet échange. Nous avons intronisé 37 disciples pour ce deuxième chapitre qui est à Tanger, à l'hôtel Ouara à Tanger.
37 hier, il y en avait aussi un petit wagon.
13 personnes.
Pour un total de 50 nouveaux disciples d'Escoffier au Maroc.
Exactement, l'objectif c'est d'avoir le maximum des disciples pour vraiment pour apporter ce partage, cette transmission et qu'il y a un engouement autour de la gastronomie marocaine. Il y a une rigueur et une discipline. C'est les deux clés que j'insiste qu'ils soient vraiment autour de notre métier.
Lassen Hafid, qu'est-ce que c'est les disciples d'Escoffier ?
Les disciples d'Escoffier, c'est une association internationale et regroupe 48 000 adhérents dans 38 délégations dans le monde entier. Il contient les 4 codes couleurs, donc c'est les chefs avec un code couleur rouge, les producteurs, le vert, le gastronome bleu et les sommeliers et les restaurateurs, maîtres d'hôtel, lits de vin. L'objectif, pourquoi il y a ces 4 coups de couleur ? Parce qu'au Escoffier, autour d'une table, il y a tout le monde qui est réuni. Il y a les chefs, il y a les partenaires, il y a les gastronomes, il y a les producteurs. Donc c'est ça, vraiment la meilleure des choses qu'on trouve autour d'une table, c'est autour de ces 4 coups de couleur dont aujourd'hui je suis fier d'être escoffier.
J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de fierté ici, hommes et femmes, cuisiniers et non-cuisiniers, mais tous unis. Alors, ça va avec les valeurs de la cuisine que prônait Auguste Escoffier, qui a été un peu un révolutionnaire à l'aube du XXe siècle.
Oui, tout à fait. Tu sais, Vincent, la cuisine évolue comme une société aujourd'hui. La cuisine marocaine, qui est la cuisine de maman aujourd'hui, est dans des plus belles tables gastronomiques dans le monde entier, à Paris, au Maroc. Voilà. Moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'on ne peut pas faire la cuisine si on n'aime pas les gens. Donc ici, au Maroc, il y a des chefs avec des talents, il y a des chefs qui aiment leur métier, il y a des chefs qui transmettent, qui partagent. Et ça, je suis fier de le dire.
Hier, on a assisté à un concours de jeunes, hein, les jeunes talents Escoffier. Alors, c'est un concours qui est mondial. Et hier, il y a eu une sélection de deux jeunes, une jeune fille, un jeune homme, pour représenter le Maroc au concours international à Nice des jeunes talents Escoffier. Ça compte énormément, la transmission chez les Escoffier.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, pourquoi ce concours binôme cuisine salle qui a été fait au Maroc pour représenter le Maroc à l'international. C'est aujourd'hui aussi pour raconter notre histoire sur l'international. Aussi dire qu'il y a des talents, il y a des talents au Maroc qui s'affrontent pour être dans l'excellence. Et ce qui fait pour moi la différence.
Est-ce qu'il y a une grosse évolution? Est-ce que aujourd'hui, on l'a pas signalé, mais le roi du Maroc, Sa Majesté, a parrainé ce chapitre des disciples d'Escoffier. Ça veut dire qu'il vous prend un peu sous son aile, les cuisiniers marocains?
Oui, tout à fait. Donc, je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de cette... d'honorer ce chapitre et cet événement, c'est qu'il y a une grande volonté des chefs qui veulent être dans l'excellence. Et avec ce boost de notre Sa Majesté le roi Mohamed VI, je pense qu'on peut aller très loin.
Aller très loin, c'est le chemin que vous avez pris aujourd'hui. Un pays qui a toujours eu une attention particulière pour sa cuisine, probablement la plus belle cuisine d'Afrique, hein, et il faut être un peu chauvin, non?
Ouais, je veux bien dire ça, parce que je suis marocain, mais bref, je veux pas que les autres soient jaloux. Oui, la cuisine marocaine, c'est une cuisine qui réunit plusieurs cultures, plusieurs continents, donc c'est une cuisine...
Et même à l'intérieur du Maroc, des terroirs, des régions qui sont très différentes sur le plan des produits et de la façon de cuisiner.
Oui, tout à fait. On trouve une cuisine juive, arabo-musulman, berbère, et c'est une cuisine du monde, moi je dirais une cuisine du monde. Aujourd'hui, c'est une cuisine aussi du temps, c'est une cuisine qui est dans le temps. On trouve plein de légumes, plein de légumes avec des saveurs, avec des épices, et aussi on trouve c'est une cuisine qui est saine. Et c'est pour cela aujourd'hui que j'encourage les jeunes, j'encourage les chefs de vraiment travailler sur cette cuisine, une réflexion de moderniser cette cuisine qui a besoin d'être dans des assiettes, des plus belles tables et des plus grandes tables étoilées au monde.
C'est vrai que la cuisine marocaine, c'est une splendeur. On s'en est régalé et je vais continuer de vous en régaler pendant le quart d'heure qui va suivre. Allez, on reste et on se retrouve dans deux minutes.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, 10h-11h, Fergnaud fait le marché.
Les amis, ça sent bon dans la cuisine, ça sent bon le tagine, ça sent bon le couscous, ça sent bon les épices. On était du côté de Tanger la semaine dernière avec le micro de Sud Radio pour cette réunion annuelle des disciples d'Escoffier Maroc. Les plus grands chefs étaient là et parmi les plus grands chefs, un des plus grands chefs d'un hôtel mythique. Je vous laisse l'entendre.
Sud Radio, Fergnaud fait le marché.
Alors je suis aux côtés du chef Karim Benbaba, qui est le chef exécutif adjoint de l'hôtel Royal Mansour à Marrakech. Bonjour Karim.
Bonjour.
Karim, évidemment, ici, la fête des Escoffiers, vous êtes intéressé au premier chef parce que un des tout premiers intronisés aux disciples d'Escoffier au Maroc.
Oui, également, moi j'ai la chance et la joie aussi d'être le premier chef marocain intronisé au Maroc. Et également, je suis le vice-président de l'association des disciples Escoffier Maroc.
Oui, c'est ça, membre de ce fameux bureau dont la scène Afid, avec qui on parlait à l'instant, et le président, on l'a dit. Alors, Karim, qu'est-ce que c'est pour vous, dans votre imaginaire, avant d'entrer dans les Escoffiers, les disciples d'Escoffier, et qu'est-ce que vous voyez de la réalité de cette association ?
Alors, avant d'intégrer déjà les disciples d'Escoffier, moi j'ai fait mes recherches. Je connais très très bien le chef Escoffier parce que j'ai travaillé ses recettes. Je suis un amoureux de sa façon de faire les choses. Il a mis en place l'organisation de la cuisine et en fait il a fait sortir le chef de sa cuisine vers la salle pour qu'il comprenne un petit peu comment ça marche, le service, l'excellence, la restauration de luxe. Et en cherchant, j'ai trouvé qu'il y en a des valeurs partagées avec notre philosophie, avec notre patrimoine culturel marocain. Alors le partage, le respect, l'accompagnement, le bienveillance aussi, et bien évidemment aussi, qui est quelque chose que je maintiens vraiment de le citer. Et c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de cette belle association. Et aujourd'hui, on est là avec le deuxième chapitre pour introniser d'autres chefs et fédérer d'autres chefs.
Karim, la cuisine française et la cuisine marocaine, elles ont des correspondances parce que ce sont à la fois des cuisines populaires à l'origine, souvent exécutées par les mamans, hein, les mères de famille, mais aussi avec cette gastronomie issue d'une cuisine royale, hein, parce qu'il y a une cour royale ici au Maroc comme en France avant la Révolution, et donc ça a été un peu aussi la naissance de cette cuisine élaborée.
Bien évidemment, oui, la cuisine française, la cuisine marocaine, ils se ressemblent. Après, je crois que la cuisine mondiale, on raconte les mêmes histoires. La cuisine humaine, vraiment, elle est autour de partage. Elle est autour des grands plats. Elle est une cuisine bourgeoise. Et je crois que la cuisine marocaine aussi répond aussi à ces choses-là. En fait, c'est une cuisine autour du partage. C'est une cuisine familiale. C'est une cuisine généreuse. Et c'est la même chose que les autres, bien précisément, la cuisine française.
Karim, vous êtes natif d'où, vous ?
Alors, moi, je viens d'une famille modeste. Je suis né à Marrakech. J'ai fait mes études à Marrakech. Mes études professionnelles, c'était à Casablanca. Et ma première école, c'était chez moi, avec ma mère.
Donc, un pur produit marocain. Marrakech, où vous exercez aujourd'hui, hein, bien entendu. Donc, vous êtes rentré chez vous, en quelque sorte. Mais est-ce qu'il y a une cuisine régionale au Maroc ? Parce que, vu de l'extérieur, les Français considèrent la cuisine marocaine. Mais est-ce qu'il y a, par les produits, par les façons de faire, une cuisine régionale ?
Oui, bien sûr. Alors, la cuisine marocaine, elle est diversifiée par rapport au produit local. Alors, si on parle de la régionalité de nos produits, de nos savoir-faire, elle est toujours par rapport à la région. Alors, en parlant juste un simple plat que tout le monde le connaît, un couscous. Alors, il y a plus que 150, 160 variétés de couscous, 4 ou 5 variétés de semoule. Alors, ça se varie par rapport à la saison, par rapport pour la région. Il y en a du poisson, il y en a de l'agneau, avec chameau, avec bœuf, avec veau, avec ce qu'il y a vraiment autour de vous. Alors on sort de chez nous, on récolte ce qu'il y a vraiment à côté, on va voir ce qu'il y a en bête à le mettre en avant dans un couscous, mais c'est tout. Je crois que c'est une gastronomie qui se base beaucoup, beaucoup des produits locaux. Et c'est la force, de notre gastronomie qu'on doit vraiment faire attention et le mettre en avant.
Et on peut dire que vous nous donnez envie, hein, de venir à cette grande table marocaine qui est à la hauteur de l'exigence de l'antenne entière. Vous m'avez fait rêver. Merci Karim.
Merci à vous et j'espère vous retrouver sinon au Royal Mansour Marrakech et plus spécialement à la grande table marocaine. Merci.
Sud Radio, 10h-11h, Fernio fait le marché.
Ah, vous le savez bien, les meilleurs moments ont une fin, un vrai régal marocain. Mais il m'a fallu rentrer hein, pour vous retrouver. Alors c'était quand même un autre régal. Et puis on n'est pas en reste hein, ici en France. On a aussi quand même, il faut le dire, les plus beaux produits du monde. Donc je n'étais pas malheureux de rentrer. On se retrouve juste après la pause et on va découvrir notre agriculture moderne sous un nouveau jour avec un personnage que vous connaissez.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Fernio fait le marché.
Allez, retour du Maroc, ce beau pays agricole. Hein. J'ai vu de belles choses là-bas. Et là, on va mettre les pieds dans la nouvelle agriculture, j'ai envie de dire, avec un des chantres, une des icônes de cette nouvelle agriculture, c'est Édouard Bergeon qui est avec nous ce matin. Bonjour Édouard.
Bonjour Vincent.
Alors Édouard, je vous ai fait venir parce que vous sortez un livre éponyme de votre chaîne de télévision, Cultivons-nous. Alors, sur la télé, c'est Cultivons-nous. .tv et le bouquin s'appelle Cultivons-nous. C'est normal que ça reprenne le même titre.
C'est normal, on ne pouvait pas changer de titre puisque j'ai pioché des rencontres et des sujets dans la chaîne pour nourrir ce livre qui raconte la terre jusqu'à notre assiette en fait.
Oui, de la fourche à la fourchette, j'aime bien cette expression.
C'est important, on a, je pense, parlé trop longtemps en silo de l'agriculture, en silo de l'assiette et de l'environnement, sauf qu'en fait tout est interconnecté. Les premiers écologistes, ce sont qui ? Ce sont ceux qui travaillent la terre.
Et voilà. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, on est déjà dans le nœud du débat. Édouard Bergeon, vous le connaissez, mesdames et messieurs, même si son nom sonne comme ça, je connais ce nom. Édouard Bergeon, il est journaliste, il est cinéaste, il est auteur, multicarte.
Restaurateur aussi.
Restaurateur aussi, c'est vrai. Mais surtout, je crois que vous destinez peut-être pas à cela, mais vous êtes un homme de la terre. C'est comme ça que vous vous définissez aujourd'hui ?
Ah oui, un fils de la terre. D'ailleurs, le documentaire qui est la base de tout ce qui m'arrive aujourd'hui, il s'appelle Les Fils de la Terre. Et dans ce documentaire, je raconte l'histoire d'un agriculteur en difficulté il y a une dizaine d'années. Mmh. Et je sors les photos de famille où je raconte le destin tragique de mon père, qui nous a quittés il y a un peu plus de 20 ans et qui s'est ôté la vie parce que c'était compliqué, parce qu'il y a eu des accidents à la ferme, incendies, des cours de marché qui ont baissé, enfin tout ce qu'on entend toujours sur l'agriculture. Mais j'étais toujours dans ses pas, dans ses pattes et toujours
dans ses bottes.
Dans ses bottes. Et d'ailleurs, les bottes que j'ai données à Guillaume Canet quand on a tourné le film Au nom de la terre, il joue avec les bottes de mon père. La symbolique est forte.
Ouais, je pense.
Mais c'était une passion. J'ai grandi dans une encyclopédie à taille réelle. J'ai un bac plus 10 ou 15 en agriculture. Mm-hmm. On apprend tellement de choses dans une ferme. C'est génial quand on est jeune, mais jamais je n'ai eu la pression de reprendre l'exploitation agricole de mes parents.
Non.
Il fallait qu'on travaille bien à l'école et qu'on choisisse notre métier parce que je crois que si lui s'est dégoûté de son métier, c'est qu'il avait été obligé de reprendre par son père, cette vieille génération qui était un peu sans concession.
Mais cette terre, elle vous colle aux bottes.
Elle est amoureuse. Quand même, hein. Elle est amoureuse. Là, je suis en basket, là, et elle est amoureuse, la terre.
Bah oui, oui. Elle est amoureuse quand il a plu.
Ouais. Voilà,
c'est ce qu'on dit.
Ouais, ouais, mais j'ai la chance d'avoir un bel héritage que d'avoir grandi dans cette ferme. Et j'essaie de semer des bonnes graines. Et puis, il se trouve que
ça pousse.
Quand on y met du cœur et de la sincérité, on crée Cultivons-nous. C'est une saine injonction, Cultivons-nous.
Ah, moi, j'aime beaucoup, hein, parce que j'ai toujours dit, je m'occupe plus de gastronomie que d'agriculture, mais c'en est une des branches, hein. Bien entendu, je dis toujours, c'est une culture, hein. Ouais. Tout ce qui tourne autour des arts de la table, du bien manger, du repas français qui est à l'UNESCO maintenant, c'est une culture. L'agriculture, c'est une culture agraire, mais c'est une culture avant tout.
Bien sûr, c'est une culture. On est quand même un des seuls qui parle de la table avant de manger, pendant le repas et ensuite. Et puis, quand je parle d'interconnexion de tous ces cercles, quand on voit aujourd'hui un chef qui, c'est quand même notre vitrine, la gastronomie française, mais en fait, il vous parle de quoi, le chef ? Il vous parle des produits. Mmh. Et il vous parle de qui derrière ?
De ses fournisseurs, de ses producteurs, de ses éleveurs.
Même si c'est une période inédite et terrible qu'on a vécue avec le Covid, on s'est tous retrouvés à table. On le voit, la couverture de ce livre, c'est une table dans un champ, avec une jolie table,
bien garnie, bien garnie d'abondance paysanne.
Et en fait, c'est ce qu'on a. On a tous eu peur, mais on a tous vécu ça, je crois, à différents niveaux. Mais on s'est retrouvés. On a cuisiné ensemble et on s'est demandé d'où venaient nos produits. Puis on a eu peur d'ailleurs parce que est-ce qu'on allait les trouver ? Et puis les seuls endroits ouverts, c'était les supermarchés et les marchés.
Mmh. Et les commerçants de centre-ville.
C'est ça. Ouais. Et on s'est posé quelques questions. J'ai pas envie de dire que l'agriculture et le bien manger est devenu à la mode, parce que moi, je laboure ce terrain depuis que je suis né, en fait. Mmh. Mais ça fait du bien de voir qu'on remet au centre du débat, au centre de la table, les questions du bien manger. Parce que, outre dans les préoccupations des Français, aujourd'hui, il y a la baisse du pouvoir d'achat, bien entendu, mais il y a la valeur santé. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'on est ce qu'on mange.
Oui,
donc ce livre-là qui sort, et le, c'est tout ça.
Le agriculteur bashing, ça, du coup, ça s'est un peu tu grâce au Covid. Je dirais, c'est un des effets positifs du Covid, c'est que on a tellement eu envie de nature, on a tellement eu envie de savoir ce qu'on mangeait, qu'on a arrêté un peu d'emmerder les agriculteurs qui ne faisaient pas tout vertueusement.
Alors, il y a toujours des pôles aujourd'hui ou des influenceurs qui, je pense, racontent ce qu'ils ont à raconter, mais ils font pas du bien au monde agricole. On en parlait tout à l'heure, vous allez aller à la campagne pour un futur projet, y a rien de mieux que d'être dans ses bottes, dans les fermes, et puis de passer du temps avec eux, et même de donner la main pour savoir ce qu'ils vivent et comment ils travaillent. Ils sont très interdépendants de la météo. On l'a vu cet été, il a plu tout l'été.
Climato-dépendant, c'est vraiment le premier truc.
Les récoltes n'ont pas toujours été belles. On le voit dans la vigne, c'est une année catastrophique. Et alors là, les débats de bio, pas bio et tout, là déjà, moi j'ai des amis aujourd'hui qui sont en bio, qui repassent en conventionnel.
Parce que quand c'est humide, il y a de la pourriture.
Et puis en plus, il y a un marché bio qui est déjà saturé. Parce que le bio, ça coûte cher. Et c'est pas forcément un argument de vente. Aujourd'hui, c'est qu'un argument de vente, vous le savez, c'est le local, c'est connaître les agriculteurs, les agricultrices qui sont autour de nous.
Pour mettre un visage sur la production.
Et le local, déjà, c'est français, et puis après, c'est régional, local, c'est encore mieux. Mais c'est ça qui est un argument de vente.
Alors, ce livre, Cultivons-nous, qui est une... Moi, j'aime bien ce terme, une miscelle l'année, c'est-à-dire qu'on y trouve plein de choses. C'est un peu une encyclopédie de l'agriculture aujourd'hui.
Ouais, c'est un ovni qui a une couverture souple. C'est pas un grand livre avec une couverture
c'est
en
pas
dur,
une Bible,
comme
non.
un vieux téléfilm d'une télé obscure qui parlerait d'agriculture avec une gitane de maïs collée au coin de la bouche.
On aimerait bien aussi, on aime bien ces images épinales.
On les a, mais il faut aussi avancer en fait.
Ouais, bien sûr.
Et dedans, on y trouve de la BD, on y trouve des grandes enquêtes, sur les cantines scolaires. Est-ce qu'on peut faire changer les choses quand on est parent? Oui, on peut. On peut aussi. Le politique peut changer les choses. Les parents peuvent changer les choses. Qu'est-ce qu'on mangera demain?
Oui, alors justement, qu'est-ce qu'on mangera demain, Edouard Bergeon?
Peut-être que nos amis les insectes, qu'on mange déjà dans certaines cultures en Asie.
Même sans le vouloir parfois. Dans un fromage qui est un petit peu
Faites gaffe parce que s'il y a des insectes, c'est plus vegan.
C'est vrai. Mais moi, ça me gêne pas.
Non, moi non plus. Des farines d'insectes. Après, il y a du développement, notamment en Israël et à Singapour, de viande in vitro, de viande cellulaire. Moi, je suis pas partisan de tout ça, parce que je suis un partisan du vivant, et que pour préserver nos belles campagnes, il faut des animaux. Une vache, un hectare, c'est 1000 espèces différentes de biodiversité.
Oui, parce que quand on pense agriculture, vous dites aux gens agriculteurs, on pense végétal.
Oui, on pense
labo, c'est les grandes machines. Et on oublie parfois
l'élevage. Oui. Ouais, mais à un moment donné, par exemple, si on veut aller vers du bio, mais il faut quand même des amendements naturels, donc du fumier. Pour avoir ce fumier, il faut des animaux.
Ou du compost.
Oui, mais à l'échelle de l'agriculture, l'homme est l'homme parce qu'il a domestiqué des animaux, il est devenu, il était cueilleur, il a réussi aussi à domestiquer les graines pour en faire de l'agriculture, il a inventé la charrue. Et tout ça communique, en fait. C'est pas faut faire ci ou faut faire ça, plus de végétal, c'est plus de terre labourée, c'est peut-être plus d'érosion des sols et peut-être plus de produits chimiques. Enfin, voilà, tout est interconnecté, donc c'est ce qu'on parle de tout ça, donc cultivons-nous, des BD, des grandes enquêtes, des plus petits papiers, des portfolios, il y a un portfolio incroyable sur Mathieu qui est un éleveur du Puy-de-Dôme, alors pour le coup c'est pas moi qui l'ai lancé ce portfolio, parce qu'il a été lancé il y a 16 ans par Pablo Chignard qui est un formidable photographe, et on voit la trajectoire, le destin de cet homme dont la famille s'agrandit, les enfants arrivent, et puis son troupeau qui change, et il va vers le bio pour le coup, et puis on voit On voit que c'est dur en fait. On voit la sécheresse arriver, la neige.
Ça se fait pas comme ça.
Non, c'est le temps long, l'agriculture.
Surtout dans une agriculture qui a été sponsorisée, pour pas dire soutenue, par les pouvoirs publics et par l'Europe et la PAC. Ouais. C'est-à-dire qu'au fond, ils sont sous perfusion, nos agriculteurs. Ils ne vivent pas vraiment de leur production.
Non, mais comme dans le monde entier en fait. Parce qu'aujourd'hui, la valeur nourriture n'a plus beaucoup de valeur.
On préfère s'acheter des portables, c'est
13%
sûr.
13% en budget, l'agriculture, c'était 50% au sortir de la guerre. Alors bien sûr, il faut que ça change. Mais moi, j'ai les moyens, bien sûr, et tout le monde n'a pas les moyens. Mais j'y accorde de l'importance à cette assiette. Et en même temps, cuisiner, ça coûte pas forcément beaucoup plus cher. Et justement, cuisiner, c'est la fin du livre.
Oui, absolument. Ben, venez pas à la fin tout de suite, parce que la fin, on y viendra en fin d'émission tout à l'heure. Lorsque on aura eu quelqu'un que vous aimez bien au téléphone, je vous dis pas qui pour l'instant.
Mais
vous
la verrez. Fin est là pour moi déjà.
Tenez-la bien.
Quand je vois toutes ces photos,
oui, c'est la fin FAIM, excusez-moi. Édouard Bergeon, avant de faire une petite coupure pour se donner fin, justement, moi j'ai envie de dire, vous citiez bien évidemment votre expérience enfantine, auprès de votre père, dont le destin tragique, vous nous l'avez conté dans Au nom de la Terre, ce film magnifique a été vu par combien de...
2 millions de personnes en France.
Ouais, c'était, toutes les familles l'ont vu, quoi.
Ouais, les ruralités l'ont vu, voilà. Et on a assisté à des choses incroyables, des files d'attente devant des cinémas, des mono-écrans dans la campagne où il fallait réserver, revenir avec des publics qui n'étaient pas venus au cinéma depuis longtemps. Mmh. Ça a provoqué des débats dans les familles, et puis au niveau politique aussi. Ça a fait bouger certaines choses, quand même.
Je le rappelle, hein, c'est le destin d'un homme qui cède un peu au productivisme, hein, parce que c'était la mode à l'époque, encouragé par les banques, encouragé par les assurances, firmes. Encouragé par les firmes, les semenciers, etc. Et qui évidemment se casse la figure au point d'atteindre à ses jours, voilà, d'attenter à ses jours. Et ça, c'est l'histoire de votre enfance. Vous aviez quel âge quand votre père a mis fin à ses jours?
J'avais 16 ans, mais il faut imaginer que ça met des mois et des années à...
Oui, bien sûr, malheureusement,
en fait, nous, il y a eu un deuxième incendie qui a ravagé la ferme une deuxième fois quand j'avais 14 ans. Et pendant 2 ans, il y a eu une longue descente qui était assez terrible, que j'évoque dans le film. Et bien sûr, la réalité est toujours pire que la fiction. Mais c'était important pour moi de raconter ce film qui est en partie mon histoire, mais qui raconte aussi la France agricole, de la filmer d'une manière cinématographique. La ferme, l'agriculture, la terre, le personnage principal, c'est la terre et la ferme. Et de montrer tous ces beaux moments aussi où la liberté de vivre à la campagne, de se déplacer à vélo, en mobylette, la piscine en botte de paille l'été, les moissons, les moments de famille, tout ça, c'est dans le film et c'est ce qui me guide aussi. Mais
ça reste une ligne directrice au moment où vous créez votre chaîne TV Cultivons-nous, au moment où vous commencez ce bouquin.
C'est la suite du film. En fait, mon film fait 2 millions d'entrées, mais il fait seulement 115 000 entrées à Paris. C'est-à-dire qu'il y a un fossé entre Paris et la ruralité. Et je fais 120 débats avec le public autour de la France. Et là, sur ces 120 débats, beaucoup de remarques du public qui ne connaît plus l'agriculture ou qu'on a un souvenir enfantin de vacances à la ferme chez des tontons, tatas, grands-parents. Mais ça a évolué. C'est un monde qui a fait sa révolution, qui est en perpétuelle mutation. Donc une méconnaissance et beaucoup de questions, puisque vous le savez, quand on mange, on vote 3 fois par jour. Et là, je me suis dit, mais il faut créer une boîte à outils pour justement amener cette information au grand public et aux plus jeunes, parce que c'est là que ça se joue. Et ben, on va servir du digital, on va créer un petit Netflix de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement. Ça s'appelle Cultivons-nous TV. Et aujourd'hui, c'est disponible sur Orange, Prime Video, demain Bouygues, Free. Et voilà, on grandit, et maintenant il y a un livre.
Et ben c'est la campagne qui rentre dans les villes grâce à vous, ça fait pas de mal, hein. Surtout quand plane l'ombre d'un reconfinement. Non, on va parler de malheur. Non. Allez, on se quitte 2 minutes, on revient pour parler de ce livre d'Edouard Bergeon, et on va passer un coup de fil à une amie de la famille, j'ai envie de dire de la famille, en tout cas de la famille de ces agriculteurs qui font bouger le monde dans le bon sens. À tout de suite.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché.
Alors, je fais le marché directement chez le producteur. Là, j'ai envie de dire à la ferme. J'adore ce terme de à la ferme. L'exploitation, le GAEC, la ferme, on va tout cela. Ça sent le monde paysan normal. On est ce matin avec Édouard Bergeon, réalisateur, cinéaste, journaliste, auteur. Et maintenant, je dirais homme d'affaires, hein, parce qu'il a lancé une chaîne de TV. Donc ça doit lui prendre du temps. Édouard Bergeon, aujourd'hui, dans votre emploi du temps, hein, qui doit être bien rempli. Oui. Vous avez le temps encore de mettre les pieds dans la terre? Vous avez le temps d'aller à la campagne, de vous balader dans les champs?
C'est la clé, en fait. Si je perds cet enracinement-là, je ne sais plus de quoi je parle. Le week-end dernier, il faisait beau, j'ai pris ma voiture, je suis descendu tout près, dans le Cantal.
Ah bah voilà, un des plus beaux départements de France.
5h30 de route, Mauriac...
Parce que vous vivez en Ile-de-France, autrement?
Je vis en Ile-de-France, je vis régulièrement dans la Nièvre, où on a notre maraîchage là-bas pour nos restaurants, mon associé a une maison là-bas, et puis j'ai créé Cultivons-nous là-bas, donc j'ai passé beaucoup de temps, des amis vignerons, super...
C'est à 1h30 de Paris. Entre Bourgogne et Loire, quoi.
Ouais. C'est à 1h30 de Paris, mais c'est la diagonale du vide. Si je vous dis Cône-sur-Loire, la Charité.
Ah bah si, si, moi je connais toute la vallée de la Haute-Loire.
Mais
là,
tout ça, non, mais si je dis ça au grand public, bon, on connaît pas grand. Par contre, si on
face à Sancerre.
On dit Sancerre, Chavignol, Pouilly-Fumet, là.
Ah oui, oui, oui.
C'est
oui,
des
oui,
références.
C'est
non, c'est un super endroit.
Pouilly-Fumet, je le dis pour ceux qui nous écoutent, ça, c'est un vin de Bourgogne, mais c'est aussi un vin de Loire.
Ouais, en quelque sorte,
c'est assez marrant. Mais côté bourguignon.
Exactement, côté Nièvre. Et j'ai un ami que je salue à Tracy-sur-Loire, Alexandre Bain, qui est un des chantres de la biodynamie et qui fait un vin exceptionnel. J'étais dans le Cantal et je suis allé voir mon ami agriculteur Michel Teissédou. Mon fils a repris et on a fait un grand. J'y suis allé, tiens, je mets mes appareils photo dans la voiture et puis on a fait un grand entretien qu'on retrouvera bientôt sur la chaîne. Et puis.
Mais parce que cette fibre de reporter, elle vous lâche pas, quoi.
Ben non, parce que je crois qu'on est journaliste toute sa vie. Puis moi, j'ai été journaliste sans avoir fait d'école. Enfin, c'est à un moment donné.
L'envie de raconter, quoi.
Ouais,
témoigner.
T'es payé à raconter des histoires et puis tu peux mettre ta caméra là ou écrire sur telle ou telle personne et c'est quand même génial d'être un passeur parce que je crois que c'est aussi mon expérience personnelle. Mon père a crié tellement fort dans cette ferme où personne n'a entendu que j'en suis le relais aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que je suis multi-canaux, multimédia avec du papier, avec le livre, avec une chaîne digitale, avec le cinéma et j'ai cette chance incroyable d'avoir ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est la liberté.
Vous sentez que vous êtes la voix de votre père qui s'est tue en fait? Vous continuez.
Oui, et puis j'espère être sans prétention le prolongement de voix d'agriculteurs ou d'agricultrices qui me contactent et que je vois pour Cultivons-nous et qui me font part de ce qui va pas, mais ce qui va bien aussi, parce que l'agriculture se rajeunit, innove. On vient de faire un partenariat avec La Ferme Digitale, qui est un rassemblement de 50 start-up agricoles où c'est incroyable ce qui se passe. La tech, elle est là.
C'est ça. Ah, parce que ce sont des grands techniciens, ce sont des ingénieurs. Les agriculteurs aujourd'hui. Hein. On a peut-être une image un petit peu passéiste, parfois comme vous le disiez tout à l'heure, la gitane maïs au coin des lèvres et le béret vissent sur la tête, mais ils sont plus souvent devant des écrans d'ordinateur à monitorer un peu leur exploitation.
Hein. Ouais, sauf qu'il y a un fossé entre ceux qui les racontent et ceux qui les racontent.
Ouais, donc, c'est ça.
En fait, je pense qu'en France, on a des savoir-faire extraordinaires, et moi, Cultivons-nous, je suis là pour les faire savoir. Donc sur plein de médias et mais c'est passionnant. Gérard, quand je suis rentré de Saint-Bonnet de Salaire, je suis passé à la coopérative laitière où les copains livrent là-bas, les copains du Sud Cantal que j'avais suivi pour mon doc Les Fils de la Terre. C'est toujours pareil, une petite graine que je sème depuis 10 ans, 15 ans.
Ah, ça met du temps à pousser certaines plantes.
Et là, j'ai ramené 7 kilos de Cantal, quart de meule et c'est génial. Et j'en donne aux copains et puis j'ai fait une raclette au Cantal.
Ah, il faut du Cantal jeune, hein. Sinon pas de l'entre-deux. Hein.
Non.
Ça allait. Quoi.
Ça allait.
Alors Édouard Bergeon, je sais que je vais vous faire plaisir parce qu'on a passé un petit coup de fil. Vous savez le fameux coup de fil à un ami là c'est une amie en l'occurrence.
Parce que la vitalité vient des agricultrices.
On part en Bourgogne et comme je le disais tout à l'heure, il se trouve qu'on pense souvent à agriculture végétale. Or souvent le bashing il est fait contre les éleveurs, les éleveuses, les abattoirs.
Mobile.
La mobile, pour le coup, on a appelé Émilie Janin. Bonjour Émilie.
Bonjour.
Émilie Janin, à la ferme des Linières. Alors, Émilie Janin, on l'avait eu dans l'émission, je suis content de vous entendre, Émilie.
On s'était rencontrés avec Émilie au salon de l'agriculture.
Sur votre plateau.
Absolument.
Ouais, grâce à Vincent Fagnon.
Oh, dites donc, incroyable. Incroyable. Dites donc, pour une fois que j'ai servi à un truc à l'agriculture. Émilie, je vous ai appelé parce qu'il y a un grand changement de votre vie depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. C'est que l'abattoir mobile, sur une idée suédoise que vous avez réussi à instaurer dans votre région de France, qui est la Bourgogne, ça y est, ça marche.
Voilà, ça fonctionne, on tourne et on va de ferme en ferme tous les jours. Ouais.
Ah, rappelez-nous cette idée géniale, en fait, qui est de dire, au fond, c'est un peu comme les bouilleurs de cru, on va à l'exploitation au lieu de faire venir les bêtes à nous.
Voilà, c'est ça. Eh bien, moi, quand j'en ai entendu parler, j'avais du mal à imaginer comment on pouvait réunir dans des camions tout ce qu'il fallait pour respecter les normes européennes qui sont très très exigeantes.
Ouais.
Et en fait, on a été voir sur place en Suède et puis on a travaillé pour le faire en France avec des adaptations nécessaires sur les largeurs des camions, les hauteurs, etc.
Ouais,
Mais
ouais.
le principe, c'est qu'on a fait tenir dans 3 SNIRMORC tout ce qu'il faut pour faire un abattoir répondant aux normes européennes.
Décent, quoi, surtout aussi. Hein. Décent et respectueux des animaux.
Bah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de déplacer les abattoirs dans les fermes. C'était pourquoi ? Parce qu'on a été choqués, comme tout le monde, hein, parce qu'on a pu voir dans des vidéos assez trash, mais qui reflètent quand même une réalité qu'on n'avait pas forcément sous les yeux avant. Et quand on voit ça, on se dit ok, c'est horrible, mais maintenant on fait quoi pour que ça ne se passe plus ? Et quand j'ai vu l'abattoir mobile, je me suis dit ça c'est la solution, parce que quand on s'installe sur la ferme, ça veut dire qu'on déplace les technologies, enfin l'abattoir, tout l'équipement, les machines, etc., enfin bref, toutes les technologies vers les animaux, et on ne déplace plus les animaux vivants sur des très longues distances. Et donc du coup, s'installant aussi à l'intérieur même de la ferme, sous l'œil de l'éleveur, avec constamment les services vétérinaires qui surveillent ce qu'on fait, je ne vois pas comment il peut y avoir la moindre maltraitance, la moindre mauvaise action sous l'œil de l'éleveur.
Les purs et durs vous diront, les véganes, moi je préfère dire végétaliens parce que c'est moins politisé, mais en tout cas ceux qui ne consomment pas de chair animale ni de produits animaux diront, il y a toujours l'abattage, c'est-à-dire qu'on met à mort l'animal de toute façon. Mais c'est vrai que les conditions dans une société omnivore comme la nôtre, hein, on n'est pas prêt à abandonner la consommation de produits carnés à condition que ce soit fait avec respect, hein, dans une certaine éthique.
Oui, c'est le contrat en fait qu'on a depuis tout le temps avec les animaux. C'est peut-être un peu philosophique, mais on prend bien soin d'eux jusqu'à leur mort et eux, ils nous nourrissent.
Oui.
Mais c'est ça,
je dirais même qu'on collabore, hein, parce que les végans disent on prend de la laine du mouton, mais non, on prend pas sa laine.
Il faut qu'il s'en sépare.
C'est une collaboration.
Qu'il soit fondu,
Il s'en sépare. Une vache, si vous la traillez pas, elle fait une mamite, elle meurt.
Oui. Ou alors, il faut qu'elle ait le veau collé toute l'année sous le pis. Émilie, rappelez-nous où est la ferme des Linières, parce qu'j'ai dit.
Elle est dans le livre, la ferme des Linières.
Bah oui. Alors, elle est dans le livre d'Edouard Bergeon et géographiquement.
Voilà. Quelle vieille pour savoir où c'est. Non. Géographiquement, c'est dans l'Auxois. Alors, l'Auxois, c'est une région naturelle de Bourgogne qui se situe grosso modo entre Semur en Auxois.
Une très belle ville d'ailleurs.
Et Pouilly en Auxois. Ouais,
donc, on va dire le royaume de la Charolaise quand même, hein, globalement.
Ouais, c'est un royaume de la Charolaise, c'est un endroit qui est très très vallonné, où coule l'Armançon, etc., mais qui a plein de petites montagnes et de vallons. Et comme c'est du coup très pentu, ça fait du coup plusieurs siècles que c'est une zone de polyculture élevage, et sur les pentes, forcément, il n'y a que les animaux qui valorisent des prairies naturelles qui ont plusieurs siècles.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, si vous demandez quand est-ce qu'on peut regarder... Alors, quand vous allez en TGV de Paris à Lyon ou de Lyon à Paris, à un moment donné, c'est toujours ce moment où vous dites « Oh, qu'est-ce que la campagne est belle !» Vous y êtes. C'est là, c'est ce coin-là, après le Creusot, effectivement. Alors, Émilie, aujourd'hui, combien de bêtes sont abattues, en fait, dans votre abattoir mobile ?
Pour l'instant, on est sur un rythme de 3 bovins par jour.
Voilà, je voulais qu'on entende ça pour se dire, c'est vraiment du slow abattage, hein, si on peut utiliser cette expression.
C'est du slow food, slow abattage, ça. L'idée, c'est de vraiment faire très très bien les choses. Donc on est sur ce rythme-là, c'est pas énorme et c'est volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on travaille dans un environnement... donc qui est très très restreint de par la mobilité des camions, donc il faut prendre le temps d'avoir de roder, nos équipes prennent le temps de bien se roder, d'avoir des gestes très 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 précis à la fois pour des questions d'hygiène et à la fois pour des questions de sécurité aussi pour eux. Donc voilà, on n'est pas recherche d'aller vite, on est dans la recherche de faire excellemment bien, quoi.
Et ça part vers quel réseau de distribution, Émilie, derrière? Ça dépend des propriétaires, des producteurs?
Non. Alors, la particularité, c'est que on achète tous les animaux qu'on abat avec notre abattoir mobile. Ils sont tous des animaux qu'on a achetés, qu'on a contractualisés avec les éleveurs à un prix déterminé pour qu'ils puissent vivre. Donc, on s'est inspiré des indicateurs de coûts de production qu'avait calculé Interbev il y a 4 ans. Et donc, peu importe. Et donc, du coup, on travaille là-dessus et on distribue avec... pour l'instant, on a une cinquantaine de partenaires professionnels de gastronomie, c'est-à-dire des bouchers et des restaurateurs. Ça va de restaurateurs étoilés à des simples bistrots, brasseries, enfin voilà. Simplement leur point commun, c'est qu'ils sont ce sont des gens qui sont engagés dans la bonne alimentation et à favoriser des éleveurs qui travaillent bien et puis surtout à continuer à mettre de la viande à leur table quand elle est issue d'une filière vertueuse.
Et en direct pour les consommateurs, parce que le temps passe, on n'a plus qu'une minute.
Également et en direct également sur, pour les consommateurs sur le site internet lebeufethique.fr. Il y a un espace boutique en ligne avec une livraison sous 24 heures à 48 heures grand maximum, mais en tout cas sous température dirigée avec des partenaires comme Chronofresh par exemple.
Très bien, formidable.
Et en plus, elle crée de l'emploi, Émilie, en faisant ça, dans la ruralité.
Elle fixe même l'emploi à la campagne. Hein, c'est important, oui, carrément. Et puis je pense que les conditions pour les... On parle pas souvent des personnels des abattoirs. Hein. C'est une vie extrêmement difficile. Il y a eu des reportages faits dessus, très poignants également. Tout d'un coup, c'est quand même plus facile à vivre hein, quand on travaille dans de bonnes conditions.
Toujours.
Pour les animaux.
L'animal et l'homme, en fait, c'est ça. Hein.
C'est symbiose.
Exactement, le duel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager qu'il y ait la bien-traitance vis-à-vis des animaux si les êtres humains qui travaillent à leur contact, que ce soit les éleveurs ou les abatteurs ou les opérateurs en coopérative ou autre, sont maltraités. Et donc du coup, effectivement, on a des... Ouais. Alors tous nos opérateurs sont tous des gens qui ont bossé avant nos abattoirs fixes et oui, ils sont ravis de faire leur boulot avec nous parce qu'on ne leur demande pas que de abattre, on leur demande de faire plein d'autres choses.
D'accompagner en quelque sorte.
Ils ont un petit côté MacGyver aussi parce que tous les jours, ils changent de ferme.
Il faut savoir tout faire.
C'est ça. Et hier, ils ont vraiment fait les MacGyver pour le coup dans une ferme et on a vraiment rigolé parce qu'ils se sont filmés, enfin bon bref, avec la musique de MacGyver.
Génial,
bref.
Bah écoutez, un peu de bonheur dans cette partie difficile de la production et de l'élevage des animaux de bouche, c'est pas plus mal. Merci Émilie, on vous rappellera pour prendre des nouvelles de temps en temps. D'ailleurs, vous êtes dans le livre Cultivons-nous aux côtés d'autres agriculteurs, éleveurs, producteurs mis en avant par Édouard Bergeon, dont le livre prend le titre de la chaîne. Plus de 70 000 abonnés aujourd'hui, ça va grimper hein,
après
cette émission.
Et des recettes dans le livre, des recettes originales aussi. On peut cuisiner à la maison.
Carrément. Oui, parce que quand on cuisine avec des bons produits, c'est quand même meilleur.
Et on retrouve les recettes avec un QR code sur la chaîne. Comme quoi, c'est multimédia.
Il est fort, Edouard.
Qu'on ne connaissait pas avant le Covid.
Aujourd'hui,
on a tous un nouveau téléphone.
On a tous ça, et même sur nos cartes de visite. Merci Edouard Bergeon d'être venu en ce dimanche matin. Je vais vous laisser aller faire le marché, parce que vous n'avez pas tous les produits paysans chez vous. Hein.
Non.
Il faut vous munir un petit peu le dimanche matin. Nous, on passe le journal ici sur Sud Radio, et on écoute Alexandre Devecchio et son émission politique et ses invités. Puis on retrouve après Nathalie Schrengerma. Et puis, tranquille, toute la semaine sur Sud Radio, on profite en lisant des bons bouquins comme on avait ce matin dans l'émission. Et on se retrouve dimanche prochain, 10h. Vous connaissez l'heure, vous connaissez l'endroit. Alors j'en rajoute pas. Bonne journée.
Bonne journée.
Sud Radio, Fernio fait le marché.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.